Comme ça, la transition est toute trouvée. Je suis content de revoir certaines personnes qui nous visitent et de vous revoir tous aussi qui êtes fidèles, habitués du culte du dimanche. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans une série de, pour cet été, une série d'études sur les disciplines spirituelles de Jésus. Je vais donner un petit rappel dans quelques instants. On avait démarré la première étude lors du culte en plein air. Et pour ceux qui n'étaient pas là, donc pourquoi, je vais essayer de donner le sens de cette étude. Pourquoi est-ce qu'on étudie les disciplines spirituelles de Jésus? D'abord, qu'est-ce qu'une discipline? Une discipline, c'est une activité que l'on s'impose d'une certaine manière. Par exemple, vous, moi, on s'impose à peu près 3 fois par jour. Pour ceux qui grignotent entre les repas un peu plus, mais on s'impose de manger, c'est une discipline. Si on ne mange pas, qu'est-ce qu'on fait? On meurt. On s'impose à peu près 20 fois par minute de respirer. Si je ne respire pas, je meurs. Bon, c'est un peu automatique, mais c'est une discipline. On s'impose aussi de travailler, parce que l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc tous les matins on travaille ou on étudie pour, parce que ça fait partie de la vie, ça nous permet de gagner de l'argent et ça nous permet aussi donc de vivre tout simplement. Et alors qu'est-ce qu'une discipline spirituelle? Une discipline spirituelle, c'est une discipline qui a une relation, qui nous aide dans notre relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle spirituelle. Et pourquoi c'est important? Eh bien, on va lire un texte d'introduction dans l'évangile de Jean. C'est un texte bien connu, Jean chapitre 14, versets 4 à 6. Et on a des lecteurs ce matin qui vont nous aider. Donc, qui est-ce qui a Jean chapitre 14, versets 4 à 6? Où c'est l'apôtre Thomas qui pose une question peut-être un peu étrange, mais qui n'est pas si étrange que ça. Tu peux garder l'Apple TV parce que tout à l'heure, je vais afficher quelque chose. D'accord, ça, je te le redirai à ce moment-là. Merci. Vas-y, Yves, s'il te plaît.
Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Voilà, merci Yves. Donc, Jean 14, 4 à 6, Thomas pose une question. Seigneur, où vas-tu? Et un petit peu plus tôt, il a eu une autre question, mais montre-nous le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, en fait, les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans et ils demandent à Jésus de leur montrer le Père, de leur montrer le chemin. Et Jésus dit, vous m'avez regardé pendant 3 ans, en me regardant, vous voyez le Père. Et c'est pour ça que c'est important de focaliser nos regards sur Jésus, parce que si on veut savoir comment Dieu est, on doit regarder à Jésus. Ce même apôtre Jean dira dans son introduction d'évangile, il dira « Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique, celui qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Donc, lorsqu'on regarde à Jésus, on voit véritablement le caractère de Dieu. Et comme on sait que Dieu est parfait, ça nous donne un modèle à imiter, un modèle qui est parfait. Alors vous me direz, oui, mais Dieu, il est parfait, il est tout puissant, moi je suis humain, fragile, pécheur, etc. Eh bien, c'est pour ça que Dieu est venu dans la personne de Jésus, il est venu comme un simple homme, pour nous montrer que on n'est pas obligé de vivre sous l'emprise du péché, comme le premier Adam. Vous savez que Adam a failli, et donc nous a donné un contre-modèle de ce qu'il fallait faire. Et par nature, nous sommes tous nés pécheurs, et tous on porte le péché en nous, jusqu'à ce que Jésus nous sauve et nous rachète. Mais on est porteur de cette racine du péché, qui fait que on rate la cible en permanence, et qu'on a en permanence besoin de se repentir. C'est pour ça que Jean dira dans son épître, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et nous purifier de toute iniquité. Donc, se focaliser sur Jésus nous aide à voir un mode de vie sain et parfait que nous pouvons imiter. Et aujourd'hui, le but, comme disait Benjamin, c'est lorsqu'on vient au culte, bien sûr, on vient rendre un culte à Dieu, mais c'est surtout, on ne vient pas faire notre culte, on vient vivre une relation personnelle avec Jésus. Et c'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est pas faire une série de cultes, c'est pas venir à une réunion de prière, même si ça en fait partie. Le véritable christianisme authentique tel que Jésus l'a voulu, c'est avoir une relation personnelle avec Jésus. Et donc cette étude va nous aider à voir comment Jésus a vécu sur cette terre et essayer d'imiter finalement ce que Jésus faisait. Parce que Jésus a réussi dans sa mission parfaitement. Lorsqu'il est mort sur la croix, Jésus a dit « tout est accompli », c'est-à-dire qu'il a fait exactement tout ce que le Père voulait qu'il fasse. Il est un modèle parfait à imiter. Et s'il a réussi dans sa mission, c'est peut-être que sa façon de faire était finalement la bonne et qu'elle est vraiment digne d'être imitée. Donc c'est le but, c'est le sens de cette étude sur les disciplines spirituelles. Et je vous avais dit la dernière fois, pour ceux qui étaient là, que 90% des choses que l'on fait chaque jour sont des habitudes un peu automatiques. Donc ça vaut la peine d'essayer de prendre le temps d'apprendre à faire ces choses. Hein. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite il y a quelques années qui a montré que si on fait quelque chose 28 fois de suite, alors vous voyez, il faut quand même un peu de persévérance, eh bien ça devient une habitude. C'est l'université de Princeton aux États-Unis qui a étudié ça. Il faut faire quelque chose 28 fois de suite. Donc ça veut dire, alors 28, est-ce que c'est 26, est-ce que c'est 30, j'en sais rien. Mais le fait de persévérer dans une attitude fait qu'à un moment donné, ça devient automatique. Souvenez-vous tous, quand vous avez appris à faire du vélo, vous n'êtes pas monté tout de suite sur un vélo. Il a fallu au départ tâtonner, il a fallu des roulettes, papa, maman qui tenaient la selle, etc. Et au bout d'un moment, c'est parti tout seul. Et maintenant, ben, tout le monde, chacun d'entre nous, sait faire du vélo, il n'y a même pas besoin d'y réfléchir. Donc le but, c'est de voir, pendant cet été, quelles habitudes spirituelles j'ai besoin, moi, de prendre, qu'est-ce que je peux imiter chez Jésus, qu'est-ce qui peut m'inspirer en fonction de mon besoin. Et la dernière fois, nous avions donc vu la première des habitudes de Jésus, c'est le temps mis à part pour Dieu. Alors, je vais essayer d'afficher, je vous avais laissé quelques questions. Alors, contrairement à ce qu'avait dit Guy la dernière fois, ce n'est pas une interrogation écrite, hein, parce que mon but, ce n'est pas vous dire ce qu'il faut faire. Mon but, c'est simplement essayer de pointer sur ce que faisait Jésus. Et si vous trouvez que c'est inspirant pour vous, ben, je vous encourage à le retenir. Alors, on va essayer d'afficher ça. C'est bon. Oh, c'est un peu figé. Ben voilà. Alors, je vous avais laissé quelques questions. Hein. Quatre questions. Est-ce que, c'est quatre défis en quelque sorte, est-ce que j'ai prévu dans mon emploi du temps un temps spécifique, chaque jour ou chaque semaine, ou je ne sais pas selon quelle fréquence, consacrée à Dieu. Comment est-ce que j'arrive à me déconnecter ou pas de mes soucis pour me concentrer sur sa parole? Et ça, c'est la référence un peu du jeune Samuel, hein, qui s'est fait conseiller par le vieux prophète Élie. Si jamais tu entends Dieu te parler, tais-toi et pose-lui cette question. Parle, car ton serviteur écoute. Et effectivement, Samuel a imité ce conseil et il a entendu clairement la voix de Dieu. Troisième question, comment est-ce que je me relaxe physiquement? Est-ce que c'est un temps où je suis sous pression, tendu? Je lis la parole à quatrième vitesse le matin avant d'avaler mon petit déjeuner et ensuite je fonce au travail? Ou est-ce que je me détends? Et quel est mon état d'esprit? Donc ce que je vous propose durant cette série d'études, c'est qu'on puisse avoir des partages. Hein, c'est pas moi qui vais tout le temps parler. Que vous puissiez vous donner des témoignages sur comment ces questions vous parlent, qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous ne faites pas. Voilà, le but, c'est d'ouvrir un espace de dialogue. Donc, est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à l'une de ces questions que je vous ai posées? Est-ce que quelqu'un veut donner un témoignage? La première est la plus difficile. Allez, Savino. Tiens, viens ici à côté. Comme ça, tu peux parler.
Il était discipliné depuis
C'est important ce que tu as dit. Je retiens deux mots. C'est j'ai lu dans la parole, et j'ai compris ou j'ai réalisé. Et en fait, le but, vous voyez, cet été, c'est que vous puissiez lire, écouter, vous laisser inspirer. Tout à l'heure, on lira la parole de Dieu. Et que vous puissiez vous laisser inspirer par ce que faisait Jésus. Là, on prend Jésus, ça peut être Daniel, ça peut être des hommes de foi de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, donc les exemples sont importants. Mais que vous puissiez vous laisser inspirer et que cette attitude, finalement, fasse comme pour Savino, que vous compreniez avec l'intelligence de votre cœur. Et que vous disiez, peut-être, ben ça c'est pour moi. Ça, je ne le faisais pas, peut-être je vais le faire maintenant. Voilà. Merci Savino. D'autres témoignages peut-être, si vous voulez partager. Vous voyez, on fait ça entre nous, c'est l'été, on est un peu moins nombreux, c'est plus détendu. On est en famille, la famille de Dieu. Et sentez-vous libre d'intervenir, de partager. Et voilà, on fera ça en tout cas dans les 4-5 séries d'études qu'on fera cet été. Patrick, tu veux dire quelque chose ? C'est pas du tout préparé, hein. J'ai pas demandé à Patrick à l'avance ou à Savino, hein. C'est spontané.
Mais surtout pour la deuxième et quatrième question, comment est-ce que je me déconnecte de mes soucis et me concentre sur sa parole ? Parle car ton serviteur écoute. Le passage de Proverbe, le chapitre 3 et le verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il apprendra tes sentiers. Alors, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Je fais de mon mieux depuis quelques temps, depuis quelques mois, pour que ça devienne vraiment mon miroir, ma boussole. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais pourquoi je ne m'appuie pas sur ma sagesse? Parce que je l'ai déjà fait et les résultats n'ont pas été bons. Et puis, quel est mon état d'esprit quand je remets tous les soucis, tous les tracas, tout ce qui m'est imbattable et tout, et que je le reconnais, Seigneur, quoi que tu fasses, je sais que tu es là, quoi que tu fasses, le reste peut passer. Le plus important, c'est que je suis dans tes mains. Et tu m'apprends à marcher et tu m'apprends à vivre. Et alors, je serai nouveau.
Patrick, merci beaucoup. Je te salue aussi, je ne t'ai pas salué aujourd'hui. Voilà, d'autres témoignages. Peut-être on offre la possibilité, maintenant ou peut-être plus tard. Oui, ma sœur, tu ne t'attendais pas de venir ici parce qu'elle est où ?
Reste ici si tu veux, si tu es plus à l'aise, comme tu veux.
Merci beaucoup. Ton prénom, c'est
Arlène.
Eh bien, vous avez l'occasion de faire connaissance d'Arlène. Merci beaucoup pour ce témoignage. Ce que je retiens, c'est que tu as un temps le matin pour Dieu. Ce que je retiens aussi, c'est que ce n'est pas facile. C'est-à-dire que quand tu décides ça, même si tu le décides religieusement, il y a des combats, tu n'as pas envie, tu es fatigué, etc. Donc, tu persévères, tu mets une musique, c'est ton truc personnel, une musique de louange. Et puis derrière, ben voilà, tu as une libération. Alors, vous voyez que... Et vous, pardon, tu veux dire rajouter quelque chose ?
Parfois, même si je suis en
Merci. Amen, merci. Donc, c'est psaume 27, verset 14, hein, parce que c'est tes versets. C'est très important, c'est que tu prends la parole de Dieu et tu l'appliques à toi. Tu vois, tu invoques la parole. C'est ça, invoquer la parole. C'est prendre un verset, de dire, Seigneur, tu l'as écrit, je l'invoque pour moi maintenant, je te demande de me l'appliquer. Donc, psaume 27, verset 14, et la référence que tu as citée, c'est Ésaïe. C'est Ésaïe chapitre 41, hein, le début du chapitre 41 d'Ésaïe. Donc c'est tes versets à toi, ça peut être les vôtres, vous en avez certainement d'autres, hein, chacun a son verset personnel. Patrick, c'est le Proverbe 3, verset, Proverbe chapitre 3, versets 4 et 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Donc l'importance de mémoriser, d'avoir des versets qui, dans les moments difficiles, vous aident à invoquer la parole de Dieu quand on n'a pas envie de lire sa Bible, quand on n'a pas envie de l'ouvrir, eh bien, quand même le verset vient par le Saint-Esprit qui nous le rappelle, et à ce moment-là, on invoque la parole de Dieu et on rentre dans une relation avec Dieu. Merci beaucoup, Arlène. D'autres témoignages ? Bon, vous aurez l'occasion de toute façon de témoigner durant ce matin, et puis même dans d'autres séances. Le but, c'est qu'on s'encourage bellement, avec des petits trucs à chaque fois. Qu'est-ce que moi je fais ? Qu'est-ce que... Et en gardant toujours la ligne de mire de Jésus. Hein. Bien sûr, Jésus n'a pas pris les versets d'Arlène pour être encouragé, mais il en a eu d'autres. Et d'autres prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ont fait exactement la même chose. Donc ce temps mis à part pour Dieu, cet isolement et ce repos font partie d'une vie équilibrée. Alors, on va relire un passage important qui, dans Marc chapitre 6, verset 31. Qui est-ce qui a Marc chapitre 6, verset 31 en lecture ? Missa. Tout à fait. Merci, Missa. Voilà, donc c'est un passage de l'Écriture cité dans Marc où finalement on voit qu'il y avait une grande agitation. C'est tellement agité que les disciples n'ont même pas le temps de manger. Imaginez la foule. Jésus, il est suivi par une foule énorme. Il guérit des malades en permanence. Les gens viennent à lui par intérêt. Il est sans arrêt entouré. Il y a une agitation. Il faut imaginer Gare par Dieu, le vendredi 29 juin, lors d'un départ en vacances. C'est un peu comme ça. Et finalement, eh ben, il y a tellement d'agitation, tellement de stress, comme on peut connaître dans la vie, qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Et Jésus, de manière très sage, il dit à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Donc il y a vraiment une invitation ici pour ceux qui ont une vie agitée, turbulente, qui n'ont pas un moment, qui disent « Moi, je n'ai pas le temps de lire la Bible de toute façon, parce que du matin au soir, etc. » Jésus nous invite, parce que c'est ce qu'il faisait, de venir à l'écart dans un lieu désert. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin chacun de solitude. On a besoin de solitude pour être en communion avec Dieu, pour écouter la voix de Dieu, comme Jésus le faisait. Il y a d'autres versets, hein, dans Marc chapitre 1. Qui est-ce qui a Marc chapitre 1, verset 35 ? C'est toujours toi, Nissa. Voilà. Et ensuite, il le rencontre. « Oh Seigneur, mais t'étais où ? On te cherche, on a besoin de toi, il y a du boulot et tout. » Et Jésus, vers le matin, il se lève, encore pendant qu'il fait très sombre, alors que tout le monde est en train de dormir, il se lève et il va dans un lieu désert pour être en relation avec le Père. L'isolement et le repos, pour moi, font partie d'une vie équilibrée. Et moi, je sais que j'en ai besoin, j'ai besoin de prendre du temps individuellement, hein, j'ai d'autant plus la responsabilité de vous apporter la parole, Et c'est parce que j'arrive à prendre du temps maintenant, depuis quelques temps, du temps à part pour Dieu, que je me nourris spirituellement et je peux vous retranscrire tout ça. La solitude, disait quelqu'un, c'est le creuset de la transformation. La solitude est le creuset de la transformation. Alors qu'une vie agitée, une vie trépidante, parfois ça peut donner un sentiment d'importance. Il y a des gens qui aiment rester dans un stress permanent, parce que ça donne un sentiment d'importance. On a l'impression de faire quelque chose. Et inversement, lorsqu'on est dans la solitude, on a l'impression de rien faire, de rien accomplir. Il n'y a rien qui se produit derrière. Mais se produit une transformation intérieure. Alors ça peut être de courts instants au quotidien. Par exemple, de temps en temps, je prends le bus. Dans le bus, je m'assois quand j'ai de la place. Et pendant 10 minutes, je ferme les yeux et je pense à rien, je me détends. Voilà. Et puis il me viennent des pensées, je pense à des versets, voilà, je prie le Seigneur, je pense à tel frère, telle sœur qui a besoin, donc j'intercède pour elle, je loue le Seigneur pour la belle journée qu'il me donne, pour des événements heureux qui se passent, des choses qui se déroulent bien. Voilà. Donc ça peut être des courts moments, ça peut être aussi des moments plus longs. Je sais que moi, personnellement, depuis quelques années, fin août, je pars toujours 2 ou 3 jours à la montagne. Je pars tout seul et je vais faire de la marche en montagne. Donc j'emmène de quoi noter. Avant, c'était un petit bout de papier et un crayon. Maintenant, on a des téléphones portables, donc on tape sur son téléphone. Et pendant 3 jours, je vous garantis, je prends des tonnes de notes, je pense à des versets, je lis la parole de Dieu, j'échafaude des plans, je pense à l'avenir, etc. Et j'essaye de, voilà. Et réellement, je ne peux pas vous l'expliquer, mais Dieu parle à mon cœur à ce moment-là. Et voilà, c'est des moments voulus, c'est des moments que je prends. J'essaye de prendre ça, et je vais réessayer cette année encore, 3 jours. Et puis, vous avez aussi des moments forcés. Vous avez des moments forcés. Personnellement, moi j'en ai connu un il y a maintenant presque 20 ans. J'ai eu une grosse opération du cœur où on m'a fait 6 pontages coronariens. Donc j'ai été 4 heures au bloc opératoire à 2 chirurgiens, une semaine en réanimation et 1 mois et demi en rééducation. Voilà. Et donc c'est un arrêt forcé parce qu'à un moment donné, j'étais trop agité. Et j'en ai payé le prix. Et pendant cet arrêt aussi, Dieu m'a parlé. C'est des expériences qui restent longtemps gravées. Et parfois, ces moments de solitude sont aussi voulus par Dieu. De la même façon que Dieu a envoyé l'apôtre Paul dans le désert, qu'il a envoyé Jésus pendant 40 jours dans le désert, il a envoyé Moïse 40 ans dans le désert à garder les moutons, etc., etc. Parfois, il y a des moments voulus. Donc, des moments courts, comme ça, des moments flash. Prenez 10 minutes. Vous avez un moment pour vous isoler, prenez 10 minutes, parce que Jésus le faisait, on l'a lu. Des moments un peu plus longs, voulus, quelques jours, une semaine, et puis profitez des moments de solitude où Dieu vous donne des périodes de chômage, des périodes de break. Voilà. Donc ça, c'est la discipline de l'isolement. Voilà, l'isolement, le temps mis à part pour Dieu, où on, pendant ce temps, eh bien, on peut faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Et aujourd'hui, vous savez qu'on n'a jamais autant mis l'accent sur la méditation. Si vous allez dans les librairies, à la FNAC ou ailleurs, il y a énormément de livres qui sortent sur la méditation. Méditer, passer du temps, méditer. Il y a une discipline qui est très en vogue, c'est la full mindfulness. Ça vous dit quelque chose ? Pleine conscience. D'accord ? Ça marche du tonnerre dans les entreprises, il y a plein de gens qui font d'argent là-dessus. Et voilà. Et c'est simplement, ça vient plus ou moins du bouddhisme, c'est assez ésotérique, oriental. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, le monde dit stop à l'agitation et met en œuvre des tas de choses. Nous, en tant que chrétiens, on a le modèle de Jésus qui faisait pareil. Le matin, il se lève, il va méditer. Quand les disciples sont agités, il prend l'initiative, il sait qu'ils ont besoin de repos. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous. Voilà. Donc il y a vraiment un besoin physique qui est ressenti aujourd'hui par nos contemporains. Alors comment en faire une habitude ? 2-3 pistes, c'est pas à moi de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais 2-3 pistes, c'est déjà 1, prendre la décision d'avoir un temps à part. Vous devez le décider dans votre cœur. Comme la sœur l'a décidé, comme Savino l'a décidé en lisant, comme Patrick l'a décidé. Alors ça peut être culpabilisant au début. Parce qu'on se dit, oulala, si je m'arrête, si je fais rien, je vais perdre du temps. Je ne vais pas accomplir. Et c'est vrai que ça peut être culpabilisant. Et c'est pour ça que ça devient tellement indispensable, quand vous avez vécu ça, quand je vis ça, et quand je vois le bien que ça me fait, eh bien c'est indispensable, j'ai envie de recommencer. Mais il faut savoir que c'est une lutte permanente. En permanence, on est sollicité à faire des choses. C'est pour ça qu'il faut le décider. Il faut choisir un temps et une place spécifique. Personnellement, je me suis acheté un fauteuil bien confortable où je me mets dessus. J'ai une petite tablette pour mettre ma Bible et tout. Hein, Marie-Laure, mon épouse, rigole, mais c'est exactement ça. Il faut que ça soit un temps agréable, d'accord ? Et puis, il faut être honnête avec soi-même et se dire « j'ai besoin d'un temps pour prier ». Et demander au Seigneur qui nous aide à garder ce temps. Alors moi, j'ai mon fauteuil, j'ai du temps le matin. Ça peut être le soir, ça peut être au bureau, ça peut être dans votre voiture. C'est à vous de voir quel est le temps et la place la meilleure pour chacun. Il faut aussi être au clair avec des facteurs de distraction. On a des textos qui arrivent, des messages, des appels téléphoniques. Savoir couper tout ça. Et puis aussi décider d'une lecture de la parole. Parce que lorsqu'on a ce temps à part pour Dieu, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre dans ce temps. Le temps de silence, un temps d'écoute de la parole de Dieu aussi. Donc, quelle lecture de la parole, c'est à vous de décider. Mais vous pouvez avoir un plan de lecture systématique. Vous pouvez lire des calendriers avec des commentaires. Vous pouvez lire... Le but, c'est d'avoir quelque chose de systématique. La mauvaise méthode, c'est de dire, allez, j'ouvre ma Bible et je lis la page. Parce que ça, en général, il n'y a pas de suivi. Donc, le plan de lecture est très bien. Vous avez soit un plan systématique sur 1 an, 2 ans, soit vous avez éventuellement YouVersion. Pour ceux qui ont la version électronique, la Bible YouVersion, vous avez plein de plans de lecture thématiques. Par saison, 10 jours avant Pâques, l'été, et puis vous avez plein de thèmes. Donc voilà, à vous de décider si vous le souhaitez. Et puis, il faut avoir de quoi noter. Parce que pendant ces temps, Dieu vous parle, Dieu me parle. Et je prends des tonnes de notes. Je garantis, j'en ai en électronique, j'en ai plein. Ce qui me permet, quand j'ai besoin de prendre la parole, quand je dois prendre la parole, pouf, les trucs ils viennent tout seuls. Parce que c'est des choses que j'ai méditées et c'est des choses qui sortent spontanément. Mais on oublie très vite parce qu'on part dans l'agitation. Donc prenez de quoi noter. Et puis, sachez rester en silence. Le psaume 46, verset 11 nous dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Psaume 37, « Reste en silence devant l'Éternel et attends-toi à lui ». Habacuc 2:20, « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui ». Et il y a plein d'autres versets qui nous incitent à un moment donné au silence. Parce qu'on n'a pas de silence dans notre vie. On a tout le temps des agitations. Il y a la radio, il y a les bruits dehors, il y a les téléphones qui sonnent, etc., etc. La musique des écouteurs, j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Et puis, demandez à Dieu qui nous aide à rester fidèles sur ce temps mis à part pour lui. Voilà, ça c'est la discipline que Jésus s'imposait. Discipline spirituelle de l'isolement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce temps spirituel d'isolement? Qu'est-ce que Jésus faisait? Eh bien, Jésus priait. Alors, le mot « prier », c'est un mot qui peut prêter à confusion. Tout à l'heure, Benjamin a parlé de la réunion de prière du jeudi. Alors, dans la réunion de prière, très souvent, on intercède. On a des sujets et on intercède. La prière, ce n'est pas intercession. L'intercession fait partie de la prière. D'ailleurs, lorsque les disciples demandent à Jésus, et là je vais demander à celui qui a Luc chapitre 11 verset 1 de nous lire. Merci Timothée. Voilà. Donc à un moment donné, Jésus priait et ses disciples le voient. Ils sont intéressés parce qu'ils voient comment Jésus est équilibré en tant qu'homme. Jésus est tellement équilibré que les disciples ont envie de savoir comment Jésus fait. Il leur demande de leur enseigner. Et qu'est-ce que Jésus fait pour les enseigner? Eh bien, il va leur donner la prière qu'on appelle communément Notre Père. Et lorsque vous regardez le Notre Père. Alors, j'y reviens pas, hein, on a fait des études sur le sermon sur la montagne. On retrouve le Notre Père dans Matthieu chapitre 6. Hein. Mais en gros, on a toutes les étapes de la prière qui vont de la confession, l'adoration, la reconnaissance de la grandeur de Dieu, la confession des péchés, l'intercession, la prière contre la tentation, la louange, tout y passe. Donc le temps de prière, c'est un temps général. Et ce que je mets moi dans le mot prière, c'est vraiment la relation avec Dieu. C'est je suis en relation avec Dieu. Dieu me parle au travers de sa parole que je lis. Moi, je parle à Dieu. Je fais comme Patrick, je lui remets mes soucis. Je lui parle ouvertement, je lui dis, tu vois Seigneur, il y a ça qui se passe dans ma vie, je ne sais pas comment faire, je suis un peu perdu là, mais je te le remets là, je n'ai pas de solution. Merci Seigneur, je sais que tu vas me répondre. Tu ne me répondras peut-être pas tout de suite, mais je sais que tu vas me répondre. Voilà. Et puis à un moment donné, en lisant la parole, Dieu me met la conviction que je me suis mal comporté vis-à-vis d'un tel ou un tel. Donc j'ai besoin de confesser mon péché. Je confesse mon péché à Dieu, et aussi aller réparer avec la personne qui a été lésée. Donc la prière et la lecture de la parole, c'est ce qui va remplir ce temps, finalement. Alors, je ne vais pas faire une prédication sur la prière, parce que ce serait trop détaillé, on n'a pas le temps. C'est juste attirer votre attention que Jésus, en permanence, priait. Il priait dans différentes circonstances, d'ailleurs. Il priait notamment lorsqu'il était bousculé. Et on va lire, par exemple, dans Luc chapitre 5, versets 15 et 16. Qui est-ce qui a Luc 5, 15 et 16? Ça doit être encore Timothée. Voilà, donc Ça rejoint le verset qu'on a lu au début. Plus vous êtes agité, plus la pression est grande et plus Jésus se retirait dans des endroits isolés en relation avec le Père. Donc plus on est bousculé, je crois que c'est Luther qui disait ça, j'ai une journée ultra chargée, donc je vais commencer par prier. Alors que naturellement, j'aurais tendance à foncer sur la première tâche jusqu'à la dernière, à m'épuiser toute la journée. Mais là, Jésus, ce qu'il faisait, lorsqu'il était bousculé, eh bien, il se retirait dans des endroits isolés où il priait. Jésus priait aussi avant de grandes décisions. Je ne sais pas si vous avez des grandes décisions à prendre dans votre vie, des orientations professionnelles, peut-être des décisions concernant un mariage, un partenariat d'affaires, décisions sur une attitude vis-à-vis de quelqu'un. Eh bien, lorsqu'il y avait des grandes décisions à prendre, Jésus savait prier. Et là, je vais demander, ça doit être encore toi, Timothée, Luc chapitre 6, versets 12 et 13. Ah, c'est Gérard, pardon. Luc chapitre 6. Merci Gérard. Un temps crucial dans la vie de Jésus. Il est suivi par une foule de monstrueuse. Il a plein de gens qui sont autour de lui, qui sont des gens zélés. Et là, il doit constituer l'équipe de 12 qui va propager l'évangile dans le monde entier. Qui va faire que 2000 ans après, il y a 3 milliards de chrétiens qui confessent le nom de Christ sur la terre. C'est pas une mince affaire, ça, choisir 12 personnes parmi tous. Pour ceux qui ont été chefs d'équipe ou chefs d'entreprise, pour choisir les bons collaborateurs, pas facile. Eh bien, Jésus connaît l'importance. Même s'il est Dieu, s'il a du discernement, si voilà, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il a passé la nuit avant de choisir. Donc c'est important. Jésus faisait ça à chaque fois qu'il avait des décisions importantes à prendre. Et puis, une autre circonstance où Jésus insistait sur le temps passé avec Dieu. Matthieu 14, verset 13. Je crois que c'est toi encore, Gérard. Voilà. 12 et 13.
À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et là, la foule l'ayant au sorti des villes, le suivit à pied. Le 14,
merci Gérard. Donc là, il faut bien comprendre les circonstances. Cet épisode où Jésus se retire pour prier se passe juste après que Jésus ait appris la nouvelle de la décapitation de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était son cousin. Il l'a connu, ils ont 6 mois d'écart, hein, puisque au moment où Marie tombe enceinte, Élisabeth est à 6 mois. Ils ont 6 mois d'écart, ils ont grandi ensemble, ils ont joué ensemble. Jésus a 30 ans, il perd son ami toujours, il perd Jean-Baptiste, celui qui l'introduit. Imaginez la tristesse et la contrition. Eh bien Jésus, là, se retire dans un lieu désert parce qu'il a besoin de recharger la batterie. Il branche sa prise USB pour recharger sa batterie avec le Père. Parce que derrière, sa mission l'attend. Il y a des grandes foules, il y a des besoins de guérison, des gens là et abattus, des gens qui ont besoin d'être guéris. Et Jésus, ça lui permet d'être ému de compassion. Alors qu'il a le cœur hyper brisé et hyper lourd, eh bien, il prend du temps quand même pour aller prier, parce qu'il a besoin de se ressourcer. Je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir le cœur lourd, d'être complètement découragé, complètement abattu, mais regardez ce que fait Jésus quand il est abattu. Je ne sais pas si vous avez perdu un ami de 30 ans comme ça, comme lui, certainement, certains d'entre vous, ou perdre un proche, ou perdre un mari, ou une épouse de 30, 40, 50 ans de mariage. Mais quand on a le cœur lourd comme Jésus, eh bien, il allait prier, il allait passer du temps avec le Père. Et puis, Jésus aussi priait quand il y avait une pression pour le détourner de son plan. Hein? Par exemple, on a lu tout à l'heure Marc chapitre 1, verset 35. Lorsqu'il se lève le matin pour aller prier dans un lieu désert, les disciples viennent et lui disent « Jésus, tous te cherchent, viens vite guérir. » Jésus, certes, avait comme plan de guérir les malades, mais son plan, il le suivait à la lettre. Il connaissait la volonté de Dieu pour sa vie. Il ne se laissait pas détourner de son plan par les circonstances, par les autres, etc. Il savait ce qu'il devait faire. Et j'espère pour chacun d'entre vous que vous connaissez votre mission sur terre. Parce que Dieu, pour chacun d'entre vous, a une mission très particulière qui est liée à vous, qui vous êtes, votre histoire, là d'où vous venez. Vous avez chacun un plan que Dieu a prévu pour vous. Éphésiens 2:10 nous dit « Nous avons été sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et quand on a des bonnes œuvres, il faut connaître ce plan parce que vous allez tout le temps avoir des gens, le diable, d'autres circonstances qui vont vous détourner de votre mission. Et Jésus ne se laissait pas détourner de sa mission. Et enfin, on va lire Luc chapitre 22, versets 31 et 32. C'est toujours toi, je crois, Gérard. Luc 22, 31 et 32. Voilà, donc l'exemple de Jésus ici, c'est qu'il priait pour la foi de ses bien-aimés. Je ne sais pas si vous priez pour la foi de vos bien-aimés, votre famille, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs de l'Église. En tout cas, Jésus savait que telle personne, en l'occurrence les apôtres, allait passer dans les mains de Satan, allait passer au crible. Et Jésus dit à l'apôtre Pierre, « J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. » Et c'est une prière d'une importance capitale, parce que Pierre aurait pu se décourager, il aurait pu faire comme Judas, il aurait pu aller se suicider de remords, parce qu'il avait renié le Seigneur. Mais parce que Jésus avait prié pour lui, il y a une enveloppe qui maintenait Pierre et qui a empêché que sa foi ne défaille. Et à un moment donné, Pierre a été réhabilité et il a pu lancer cette prédication de la Pentecôte qui a fait démarrer l'Église. Donc le modèle de Jésus, c'est de prier aussi pour les bien-aimés, afin que leur foi ne défaille point. Et nous savons très bien chacun que notre foi est faible et fragile, que j'ai besoin des frères et sœurs, j'ai besoin de ma famille, de mon épouse, de mes enfants, pour prier parfois, parce qu'il y a des combats, et je sais qu'ils prient pour moi, et je les en remercie, parce que je ne serais pas où je serais si je n'avais pas ces prières. Et j'ai aussi un devoir de prier pour mes frères et sœurs, afin que notre foi ne défaille point. Et enfin, la prière ultime, c'est à Gethsémané. On ne va pas la lire, mais je vous encourage à la relire dans les évangiles. Il a prié, il était en relation avec le Père. Il a pris 3 disciples avec lui, il s'est éloigné, il s'est mis à genoux. Et là, c'est le seul moment des évangiles où Jésus, entre guillemets, est sous pression. Il est stressé, comme on dit. Jamais on voit Jésus stressé. Il prend toujours des reculs par rapport aux situations. Mais là, Gethsémané, il est troublé. Parce qu'il est juste homme comme nous. L'angoisse le saisit et il a besoin d'être en relation avec le Père. Voilà les modèles que je voulais vous donner de Jésus sur l'isolement et ce temps passé avec Dieu que je vous encourage à mettre en pratique. Chacun a saisi peut-être une ou deux bribes, un ou deux versets, des principes que vous voulez peut-être mettre en application. Je vous encourage à le faire. On se revoit, je crois, dans 15 jours. Pour une suite d'études. Et de la même façon, je demanderai à des volontaires de venir témoigner sur ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont décidé de mettre en place par rapport à ce qu'ils ont entendu aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt.